Nils, publié chez Viviane Ami. Bonjour Alexis Ragougnaud.
Bonjour Bernard Lé.
Alors on s'était rencontré dès votre premier livre, votre premier roman. C'était du polar à l'époque, La Madone de Notre-Dame. On avait dit tout le bien que l'on en pensait sur cette antenne et à ce même micro. Donc là, vous vous échappez du genre proprement dit, du polar, avec ce roman consacré aux années, enfin juste à l'après-guerre, à ce qu'on appelle la période de l'épuration. Pourquoi abandonner le genre du polar? Il était trop étroit pour vous? Vous aviez envie d'autres choses, d'autres horizons, même si il y a une forme d'enquête dans ce livre-là aussi.
Oui, je crois qu'il y a toujours une cohérence en fait entre les trois romans que j'ai pu publier chez Viviane Ami. J'ai toujours eu le sentiment de pas vraiment me laisser enfermer dans le genre du polar. C'est vrai que l'enquête a l'avantage d'offrir une sorte de squelette, une sorte de structure. Et pour des premiers romans, c'est toujours aussi quelque chose de rassurant d'une certaine façon. Et donc, quelque part, ce changement de couleur de couverture, passant du noir au rouge, c'est aussi une manière d'explorer un peu plus la liberté de l'écriture. Et on passe de l'enquête à la quête d'une certaine façon. J'ai enlevé juste deux lettres au début, parce que c'est vrai que l'histoire de Nils, mon personnage principal, c'est une quête. À travers le Paris de l'épuration. Donc il y a quand même des thèmes qui reviennent entre mes deux romans policiers et puis Nils, et notamment les interrogations morales, on va dire, entre le bien et le mal, qui étaient très présentes, puisque les deux premiers polars se passaient à Notre-Dame de Paris, donc les questions morales, les questions religieuses étaient très présentes. Et encore une fois, ici, on a cette espèce d'affrontement entre le bien et le mal. Mais ce qui m'a intéressé, c'était d'explorer toutes les nuances de gris qu'il peut y avoir entre le blanc et le noir, c'est-à-dire cette zone un peu floue.
Alors justement, enfin, vous avez déjà peut-être par avance répondu à ma question. C'est une alchimie qui m'intéresse, me passionne toujours. Quel a été l'élément déclencheur ici de ce livre de ce Nils?
Ce qui m'a intéressé dans l'exploration de cette période-là, l'épuration, c'est que c'est une période de jeu de masque, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on sort de la guerre. Là, je parle vraiment de la période entre l'été 44 et puis l'année 1945, qui est la période des règlements de compte. Et finalement, chacun essaie de tirer son épingle du jeu à ce moment-là. Et comme je le disais, c'est vraiment une période où on essaie de se trouver le plus beau masque possible, le masque du héros. Évidemment. Or, ce qui est toujours intéressant pour le romancier, c'est d'essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière le masque, c'est-à-dire de se mettre à hauteur d'homme. C'est une expression de Georges Simenon que j'utilise tout le temps parce que c'est une espèce de fil rouge dans mon travail d'écriture. Et c'est vrai que l'épuration, c'est une période d'échange de masques, d'échange de costumes aussi, ou en tout cas d'uniformes. C'est-à-dire qu'on essaie de se trouver le plus bel uniforme avec des belles médailles bien clinquantes. Et donc, pour le romancier que je suis et pour l'auteur de théâtre que je suis aussi,
C'est ce que j'allais dire, les masques, ça vous intéresse
voilà,
d'autant plus que vous êtes aussi
exactement.
dramaturge.
Voilà. On a en fait une période où il est très difficile de faire la part des choses entre la réalité et la fiction dans le parcours des individus. Pour dire les choses autrement, c'est une période où finalement la réalité paraît plus délirante que la fiction. Donc, quand on consacre 2 années de sa vie à l'écriture d'un roman, évidemment, on se plonge dans les personnages et dans la période, et on a le temps justement d'enlever les masques, c'est-à-dire d'aller au-delà des apparences, pour voir ce qu'il y a derrière. Et on essaie d'évoluer toujours sur le fil entre réalité et fiction, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une assez longue part de documentation. J'ai passé quasiment une année à me plonger dans les archives et dans les livres d'histoire. Et puis une fois qu'on a fait cette partie-là de documentation, c'est-à-dire qu'on s'est constitué en quelque sorte son imaginaire, son pari à la fois historique et imaginaire, ensuite on essaie d'y développer ses personnages. Et finalement de prendre ce détour de la fiction, ça permet parfois, si le résultat est réussi, d'aboutir à une forme de vérité, en quelque sorte. Je ne parle pas forcément d'un réalisme, mais d'une vérité. Essayer d'aller toucher l'humain au cœur. justement pour enlever les masques et voir au-delà du costume ou de l'uniforme.
Parfois, c'est une question non seulement de costume, enfin d'uniforme, mais j'allais dire de robe. Et ça, vous en parlez à plusieurs reprises, vous le soulignez. Il y a la position des magistrats qui, pour la plupart, ont été assermentés auprès de Vichy, ont prêté serment à Vichy. Et ce sont les mêmes, de toute façon, il n'y en a pas d'autres, on n'a pas le choix. Ce sont les mêmes qui vont mener les procès contre les collabos au moment de l'épuration.
Exactement. En fait, c'est tout à fait représentatif de cette période où il y a eu un travail d'épuration, parfois excessif, et en même temps, on ne pouvait pas se séparer de tout le monde. Et évidemment, la question de la magistrature et de la justice est d'autant plus cruciale que ce travail d'épuration se faisait en cour de justice par des magistrats qui, dans leur majorité, étaient déjà en place sous Vichy. Donc il y a là aussi une question morale qui finalement est très représentative de ce fil rouge que j'utilise sur tout le roman, à savoir comment gérer cette période de transition entre l'occupation et puis la pré-occupation, l'après-guerre, qui est cette période où finalement on va créer, mettre en scène le récit national de la France d'après-guerre, et où donc on essaye de mettre en scène une France résistante, alors qu'en réalité, les choses étaient beaucoup plus floues que cela, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on met sous le tapis la France de Vichy, on l'a mise sous le tapis pendant très longtemps. Les questions sur la France de Vichy sont ressorties beaucoup plus tard, par le travail des historiens, mais aussi grâce au travail justement d'auteurs de fiction. Je pense par exemple au film La Combe Lucien de Louis Malle, qui avait été
donc, scénario de Patrick Modiano,
donc qui justement a écumé, exploré cette période-là. Donc le récit national de la France résistante, il s'est créé par intérêt. Évidemment, il fallait en quelque sorte redonner sa virginité au pays pour qu'il puisse repartir du bon pied. Mais en même temps, ça a donné l'occasion à la construction d'un certain nombre de légendes. Et donc pour un auteur de fiction comme moi, c'est entre guillemets une période bénie, particulièrement intéressante. Et en même temps, je ne crois pas avoir exclusivement voulu écrire un roman historique. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était justement le côté intemporel ou universel des questions morales qui pouvaient se poser à ces personnages. Simplement, ces questions d'ordre moral sont en quelque sorte plus pur, plus...
Et posé avec une acuité, évidemment, qui est propre à cette époque.
Exactement.
Alors Jean-François Canonnier, qui est donc cet ami autrefois de Nils et qui va passer en justice, accusé lui aussi de faits de collaboration. Nils donc vient à Paris pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé à cet ami et le défendre. Et il y a un mystère, une énigme chez ce canonnier, c'est ce comportement quasi suicidaire, alors que justement on est dans l'époque des retournements de veste, lui persiste dans ses convictions pro-allemandes.
Oui, Jean-François Canonnier, on pourrait dire, retourne sa veste, mais à l'envers des autres. Ouais. Il plonge dans la collaboration à partir de 1943-1944, c'est-à-dire au moment où tout le monde comprend que l'Allemagne va perdre la guerre. Jean-François Canonnier, lui, va au contraire s'enfoncer dans la collaboration sur les derniers mois de l'occupation. Et donc, pour Nils Rasmussen, qui revient à Paris pour enquêter sur son ami, il y a en effet quelque chose de très mystérieux, parce que, en effet, sa conduite est totalement suicidaire. Et je ne veux pas en dire trop, évidemment, mais la clé dans l'enquête de Nils Rasmussen, c'est d'aller voir du côté de l'intime et de mettre de côté le politique.
Et alors, ça pose aussi cette question, c'est que finalement, est-ce que l'on connaît vraiment l'autre, même quand il est proche? Est-ce qu'on connaît ses amis? Il y a toujours cette part d'ombre dans chaque être. Ça, c'est un thème, évidemment, que vous vouliez creuser.
Oui, c'est évidemment un roman sur l'amitié. Et c'est aussi un roman sur la nostalgie. C'est-à-dire que cette période d'avant-guerre où Jean-François et Nils sont montés des pièces ensemble, ils avaient 20 ans, ils étaient fous de théâtre, c'était leur passion. Donc c'était le temps de l'innocence. En quelque sorte. Passe la guerre, chacun se sépare, chacun a des voies radicalement opposées. Et Nils Rasmussen, bien qu'il choisisse le bon camp, puisqu'il se fait résistant, va aussi, en quelque sorte, avoir du mal à se regarder dans la glace après la guerre.
On va
en parler. Et donc, il a le regret de cette amitié, il a la nostalgie de cette amitié, et je crois qu'il a la nostalgie de la scène telle qu'il a pu la connaître avant-guerre, c'est-à-dire il y a un moment où il dit, le théâtre, c'était le monde pour moi. Vivre dans un théâtre, ça me suffisait. Et donc passe la guerre ensuite, et il y a cette part d'innocence qui est perdue à jamais pour Niels. Et je crois qu'en enquêtant sur cette amitié avec Jean-François, il essaie aussi de retrouver son innocence perdue.
Mais je reviens à ma question, on peut se tromper sur un ami?
Je crois pas qu'on puisse se tromper. Ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que Niels, dès le départ, il a l'instinct de ce qui s'est passé chez son ami. Il a toutes les difficultés du monde quand il arrive à Paris à aller le voir en prison à Fresnes, et ensuite il apprend en cours d'enquête que Jean-François n'est même pas à Fresnes, qu'il est à Paris au palais de justice, qu'il est à la
La
Souricière,
sorcière.
en attendant son procès. Et donc, Jean-François est à quelques mètres de Niels, et Niels va refuser d'aller le voir. Donc, en quelque sorte, il connaît tellement bien son ami et il l'a tellement aimé de cette amitié exceptionnelle, qu'il sait quelque part à quoi s'en tenir.
Alors Niels, c'est donc le héros, a priori, dans cette histoire. Et puis, on s'aperçoit, on va pas non plus trop en dire, mais on s'aperçoit qu'il porte sa propre tâche ou sa propre faute, en quelque sorte, que même chez... c'est un thème qui a été souvent traité, et vous y revenez, et de manière très réussie, dans chaque héros sommeille une part de salaud.
D'autant plus que Niels est un personnage héroïque, c'est presque un cliché de héros au départ du roman. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu que Niels soit danois, c'est-à-dire que d'une certaine façon au Danemark, la résistance a été exemplaire, héroïque, et il y a notamment un épisode absolument extraordinaire, c'est le sauvetage des juifs danois, c'est-à-dire que la population s'est mobilisée en secret et spontanément avec les pêcheurs danois pour faire passer une immense majorité des juifs danois en Suède. La Suède n'était pas occupée, le Danemark l'était. Et donc au début du roman, Niels, en effet, est prêt à recevoir les lauriers de la gloire, et c'est un héros absolument clinquant. Mais en même temps, il ne se met pas en avant. C'est-à-dire que ses états de service, si je peux dire, il ne les met pas en avant, il a cette forme de timidité qui elle aussi est un peu mystérieuse. Et donc, au fil de son enquête sur son ami Jean-François Canonnier, Niels va aussi procéder à une enquête intérieure. Il va finalement se regarder dans un miroir et constater que, justement, ces belles médailles qu'il a à la poitrine ne sont pas aussi clinquantes que cela. En tout cas, lui traîne une culpabilité terrible parce que, même s'il a choisi le bon côté, il y a des moments où il a dû se comporter en salaud. Et ça, je crois que c'est cette ambiguïté qui m'a beaucoup intéressé et qu'on trouve aussi dans un certain nombre d'œuvres de fiction. Déjà, dans le film de Jean-Pierre Melville, par exemple, L'Armée des Ombres, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement présent. Et donc, c'est un petit peu comme dans mes romans policiers, finalement. J'avais envie de partir sur un personnage presque un peu cliché au début pour mieux montrer toute la complexité des choses ensuite en cours de route.
À quoi tient la façon de se regarder dans la glace pour le restant de sa vie, héros ou meurtrier, justicier ou assassin? Voilà, c'est peut-être une des phrases clés de
Oui,
votre roman.
absolument.
Oui, mais l'héroïsme n'est tout de même pas une question de hasard, on n'est pas héros à son insu.
Non, je crois qu'il y a un certain nombre de valeurs qui doivent être ancrées en vous et qui vous font choisir les choses. Mais en même temps, le parcours de Niels, il est assez particulier aussi parce que il n'a pas choisi la résistance par conviction
C'est un
politique.
héros par amour,
C'est un héros
ça?
par amour. Il tombe amoureux de Sarah, qui est une jeune femme juive, qui elle est déjà investie dans la résistance, justement, elle a contribué à faire passer les juifs danois en Suède. Et donc Niels tombe amoureux de sa chevelure rousse et de son énergie absolument folle. Et il va s'investir dans la résistance par amour.
Inévitablement, en se projetant dans ces personnages et dans ce moment de l'histoire, arrive cette question fatale, inéluctable. Nous, qu'aurions-nous fait dans ces circonstances, à cette époque?
Oui, c'était l'une des questions de départ que je me posais. Qu'est-ce que j'aurais fait à l'époque? Et finalement, après un an de recherche et un an d'écriture, je réalise que c'est une question à laquelle il est quasiment impossible de répondre, parce que justement, on voit cette période avec le décalage, avec le travail des historiens. Tout ce que je peux dire après cette longue période d'écriture, c'est que justement, il est impossible de savoir ce qu'on aurait fait à l'époque. Peut-être que la vraie question à se poser, c'est plutôt si ça se reproduisait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de questions d'ordre moral, de l'ordre, oui, vraiment de la valeur morale, qui perdurent et qui sont inchangées, qu'on soit en 1945 ou en 2017. Donc il y a un certain nombre de questions, un certain nombre d'équivalences qu'on peut trouver entre 1945 et 2017. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas tout à fait un roman historique. Finalement, j'ai pris cette période parce que, pour bien des points, elle était exemplaire. Exemplaire du point de vue des questionnements moraux. Mais ces questionnements moraux, on peut tout à fait se les poser encore aujourd'hui en 2017.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alexis Ragonio, merci. Nils, publié chez Viviane Ami.